Metal up your ass!
Out on Megaforce Records, it's called Kill Them All! Who wants this fucker?
You wanna hear it with vocals? Go sing it.
He fucking left the bed! Which part of that? Hello?
Grab him and like take him to this other place and then really take him to a higher plateau.
Delete that.
Et bienvenue pour ce sixième, et oui, sixième épisode de Metallica Re-Revisited. Salut Guillaume.
Salut Nico.
Guillaume Fleury, mon comparse merveilleux. On va commencer tout de go par faire quelques errata, quelques précisions sur les épisodes précédents. Beaucoup de choses à dire. Alors déjà, j'ai un ami à moi qui s'appelle Romain Larreguin, qui est un excellent guitariste, excellent musicien, qui joue dans le groupe Titan, qui m'a fait remarquer que je disais de la merde, évidemment avec sa discrétion et ses gentils mots et son humilité. Parce que j'avais dit que le riff de Four Horsemen qui fait stet, tegadegades, 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 était en sextolé, et c'est évidemment une énorme erreur, puisqu'un sextolé, il y aurait, d'après ce que je réfléchis, deux fois plus de notes que ce que je viens de chanter, ce qui serait original quand même, mais déjà que c'est dur à jouer, là je pense que ça frôlerait l'impossible, donc en fait c'est juste, il m'a précisé, c'est juste un triolet, deux triolets dans lesquels on enlève juste le 2. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez, j'espère que j'ai bien retranscrit ton propos Romain, en tout cas vous pouvez vous moquer de moi et me huer. Voilà. Petite rectification aussi, je le précise, c'est moi qui fais le montage et qui du coup casse les illustrations. Alors les illustrations me sont aussi fournies par généreusement par mon collègue qui m'envoie des images merveilleuses des fois, des trucs qui sortent littéralement de son cul. Parce que moi je tape sur Google Images photo, truc précis, date de cancer et je trouve des trucs, mais lui il m'envoie des trucs des fois assez pointus parce qu'il a accès à des sources que je n'ai pas. Guillaume le professionnel de la musique. Dans l'épisode précédent par exemple, on avait mis une photo de Kirk Hammett. Qui était au concert, on parlait d'un concert, voilà. Je tiens à le dire que des fois, on triche un peu sur les illustrations. J'essaie évidemment d'être le plus exact possible sur ce que je vous montre, mais des fois, je triche un petit peu. Des fois, je mets des photos de concerts qui sont pas exactement de ce concert-là. J'essaie dans l'absolu au maximum de coller, mais c'est juste pas possible parce qu'on n'a pas les sources de tout. Et il y a plein de concerts où il y a zéro photo, il y a zéro média, il y a à peine l'affiche. Mais déjà, on a les affiches, ce qui est déjà pas mal.
Ouais, plus le temps va passer, plus on va avoir de documents, et je pense qu'arrivé à un moment, on va même être obligé de faire un tri, parce qu'on pourra pas tout mettre. Mais c'est vrai que là, les premières années, faut souvent faire appel à l'imagination pour,
ouais, c'est clair.
Pour représenter certaines anecdotes, quoi.
Ensuite, je voulais mettre un petit mot parce qu'on a fait une interview, si ce podcast vous intéresse. En fait, on fait une interview qui parle beaucoup de ce podcast et qui explique à peu près tout ce qu'autour du podcast. On a fait ça chez les amis de Blackout, donc il y a une interview de nous deux qui est sortie il y a un mois déjà à peu près. Du coup, enfin allez-y, parce que ça dure quand même 2 heures, on jacte de ouf. Et c'est, on va dire, en gros, c'est une espèce de FAQ, voilà, avec des gens qui ont travaillé le sujet, donc c'est super bien. Si vous voulez savoir plus de trucs sur le podcast, en tout cas, allez-y, écoutez. Et puis, Blackout, il faut aussi plein d'autres émissions qui sont très sympathiques, et je vous recommande d'aller.
C'était très cool à faire, ouais. Et on est même censé retourner les voir, je ne sais pas encore quand, mais pour classer les Metallica.
Ah merde, putain, je me rappelle même plus, tu vois.
Oui, à la fin de l'émission, on s'était dit, tiens, ils nous ont dit, on pensait peut-être essayer de classer un peu les Metallica et vous pourriez revenir le faire avec nous. Donc, bah, nous, on aime classer les choses. Donc,
ouais, ça peut être marrant.
On est ouvert à l'idée.
Carrément marrant. En tout cas, c'était vraiment une interview assez marrante à faire. On a bien rigolé. Donc, n'hésitez pas à y jeter une petite oreille. Et petit mot. Ah, bah oui, on a fait, bah, oui, on va aussi en parler. Children of the Sabbath, du coup, tu as participé au podcast sur l'album Sabotage.
Ouais. Et tu étais également présent dans le public.
J'étais présent dans le public pour faire mon malin. Alors après, je vous cache pas que la bière coulait à flot, que le podcast est très long et plus ça avance et moins je suis pertinent. Mais Guillaume, lui, évidemment, est toujours pertinent et toujours passionnant. Et il y avait aussi, évidemment, Gabriel, il y avait Mathieu, les deux instigateurs. Et puis il y avait aussi Sam en bonus. Puis quelques planqués comme Mathieu David et aussi l'excellent Pamalage et sa chaîne Read Em All que je vous recommande aussi.
Ouais, non, c'était vraiment une excellente émission. On a passé un super moment et non, t'as été pertinent tout le long, t'inquiète pas. C'était très très bien. On est plutôt content des retours en plus. Ça a eu l'air quand même d'intéresser pas mal de monde. Donc, on va voir comment on va aborder nous les enregistrements d'albums, puisqu'on y arrive bientôt. Mais ouais. Même si avant ça, on a encore un petit bout d'historique à terminer. Mais c'est vrai que cet exercice était assez intéressant. C'est la première fois que je participais à un podcast en public. C'était vraiment très intéressant.
Et donc, ah oui, une dernière précision. No Life Till Laser, le nom de la démo. On nous a fait une excellente réflexion dessus, Guillaume. Dis-m'en plus.
Oui, on avait oublié de mentionner. C'est une chose qu'on avait dite, il me semble, sur la page Facebook, mais qu'on n'a pas mentionné dans le podcast. Et donc, tout le monde ne consulte pas la page Facebook de toute façon. On a parlé de l'origine du titre No Life Till Laser pour la démo. On a cité No Life Till Hammersmith de Motorhead. Et on nous a fait remarquer aussi que en grand fan de Saxon, Lars et James font également référence à Denneman Laser, donc l'album des Saxons. Donc c'est une espèce de mix entre Motorhead et Saxon qui revêt également un sens, même si c'est un peu cryptique, on va dire. Tout le monde a son interprétation, mais ça revêt quand même un sens derrière pour Metallica aussi.
Ouais, carrément.
Puisque on peut dire que Saxon et Motorhead sont les deux principales influences de Metallica à l'époque, avec Diamond Head. Si on place ces trois groupes-là, on a une bonne vue d'ensemble, voilà, carrément, de ce à quoi Metallica aspire.
Très bien. Bon, revenons dans le vif du sujet. Nous avons quitté le dernier épisode. Nous en étions où ? Nous étions tout simplement en répétition. La première répète avec Cliff. Donc, le groupe a entériné son déménagement pour San Francisco. La nouvelle est là. Donc, la première répète, le groupe n'est pas officiellement encore installé, si je ne m'abuse.
Non, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait mentionné. Ils font quand même les 800 km pour, entre guillemets, uniquement pour répéter. C'est pour, ça donne quand même une bonne idée de l'enthousiasme qui anime Metallica à cette époque, qui se sent quand même revigoré avec l'arrivée de Cliff Burton, puisque sans faire injure à Ron McGovney, tout le monde sent que Cliff Burton va apporter quelque chose de très intéressant dans la musique de Metallica.
Donc, durant cette période de transition, là j'en suis, ils ont pas encore aménagé San Francisco. On sait que Dave Mustaine est allé habiter, donc James Hetfield n'est plus chez Ron McGovney. Donc Dave Mustaine et James Hetfield sont allés habiter chez la maman de Dave Mustaine, qui vraiment, la pauvre, se retrouve non pas avec un zozo, mais deux zozos alcooliques à la maison. Donc elle est bien saoulée. Heureusement, ça dure pas longtemps, puisque voilà, je sais, on n'a pas énormément, enfin moi je sais pas si t'en as beaucoup, des détails sur cette période un peu floue d'entre deux.
Non, la période d'entre deux, j'ai pas sauté. C'est dans ce que j'ai parcouru, j'ai rien relevé d'incroyable ou de vraiment très pertinent et intéressant à raconter. Ils font leurs préparatifs. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est à cette époque que Lars en vient à être en difficulté financière, et probablement du fait aussi du déménagement. Il y a quand même une logistique et ça implique certaines choses. Et on a souvent l'image de Lars Ulrich, qui est fils de tennisman richissime et qui a aucun problème avec l'argent et qui du coup peut un petit peu claquer son fric un peu comme il veut. Il y aura toujours quelqu'un derrière. Mais on avait déjà dit ça dans l'épisode 1 probablement, mais les parents de Lars ont beau être richissimes, ils ont une certaine vision de l'éducation qui fait qu'ils veulent que leur gamin s'en tire sans eux, qu'il ait un peu la valeur des choses et qu'il se débrouille un petit peu aussi tout seul. Et il se trouve que à cette époque là, donc la petite période de transition, il est un petit peu en galère financière et il va vendre sa collection, sa fameuse collection de vinyles dont on a parlé, donc pas toute la collection mais une partie de ses vinyles, à son ami John Stradnitsky. Donc on en a déjà parlé de lui, John Stradnitsky, son surnom. Donc on en a parlé dans les épisodes précédents. C'est un proche du groupe qui est souvent à leur côté. D'ailleurs, on mettra des photos parce qu'on en a sûrement encore qu'on n'a pas partagé. Et il lui vend pour $300 plusieurs de ses vinyles pour avoir de quoi continuer à tenir. Parce que là, on est à un moment où il va s'émanciper. Et en tout cas, c'est ce que je déduis de tout ce que je recherche. Il va totalement s'émanciper de ses parents. Il part de Los Angeles pour devenir un homme, on va dire.
Ouais, et puis accessoirement, c'est vrai que quand tu déménages, quand tu vends des vinyles, c'est encore moins de poids à déménager. Ce qui est, je
oui,
trouve,
puis,
une bonne idée.
Ouais, et puis je pense aussi qu'il cherche de l'argent pour Metallica. Là, c'est-à-dire qu'on n'en est pas forcément à être en galère pour vivre. Il doit quand même arriver. Ils doivent tous se serrer les coudes et s'épauler. Mais il doit y avoir quand même une petite recherche de fonds, parce que Metallica, ça va commencer à coûter de l'argent, on va y venir, mais il y a plusieurs choses qui vont, comment dire, ils vont upgrader pas mal de choses dans leur logistique.
Donc logistique, naturellement, les choses se font, ils arrivent à bouger, ils arrivent, et où vont-ils squatter principalement ? Cliff est chez lui, mais nos trois joyeux lurons arrivent. Ils se retrouvent du coup chez un certain Mark Whittaker, dont on a déjà très succinctement parlé, qui est le manager slash ingé son slash homme à tout faire de chez Exodus, Moving All Ja People, excellent morceau de Bob Marley. Néanmoins, on peut déjà noter que ça se passe un peu bizarrement, puisque il y a deux chambres, donc ils vont être à El Cerrito, qui est l'endroit un peu mythique, qui va s'appeler
3132 Carlson Boulevard, à El Cerrito.
Qui va s'appeler le Metallica Mansion. Ouais,
Metallica Mansion.
Absolument. Et déjà, on peut noter que il y a deux chambres qui vont être prises par James et Lars. Et Dave Mustaine ne fait pas partie fait pas partie de la coloc. Il est envoyé du coup chez la maman ou la grand-mère de
la grand-mère. Il qui habite à une heure de El Cerrito. Il va aller squatter chez la grand-mère de Mark Whittaker.
Dans des conditions assez difficiles, dans une pièce complètement minuscule. Et il a juste comme confort moderne, une petite glacière, même pas le modèle en dur en plus. C'est le modèle en sac isotherme un peu, vous voyez, métallisé dedans. Voilà, parce que c'est.
Il me semble qu'il est en sous-sol en plus. Enfin, il est à l'arrière de la maison. Il est vraiment dans une espèce de petite dépendance. C'est un truc un petit peu austère, quoi.
C'est vraiment roots, quoi. Et du coup, on va dire que Dave Mustaine vit particulièrement mal cette période, puisque bon, le groupe répète beaucoup, le groupe fait la fête. De toute façon, c'est un peu la règle, permanente chez Metallica à cette période-là. Mais Mustaine, du coup, se sent vraiment mis à l'écart, se sent vraiment pas bien dans cet endroit exigu. Enfin, il le dit dans sa bio, il veut répéter le maximum, même s'il a pas forcément envie de répéter, mais il a vraiment pas envie de retourner là-bas. Fort heureusement, il a au moins un bon côté, c'est que il y va avec Cliff. En fait, il fait ses allers-retours avec Cliff, parce que Cliff habite plutôt dans ce secteur-là, et passe le prendre et le ramène. Donc au moins il y a ce côté-là. Puis Cliff, il le connaît à peine, donc du coup ils apprennent à faire un peu connaissance. Donc ils écoutent plein de trucs, ils écoutent beaucoup de Lynyrd Skynyrd, qui va finir sur officiellement du coup sur The Mechanics, avec une partie. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote?
Oui, il me semble qu'on la raconte fin de l'épisode précédent, peut-être qu'on l'a peut-être abordé
succinctement. Ouais. Il me semble que c'était
très succinctement, mais ça part plus ou moins d'une blague en fait, parce que Lars Ulrich veut ralentir le tempo de The Four Horsemen, donc Mechanics. Dave Mustaine raconte qu'il a balancé le pont de Sweet Home Alabama un peu ironiquement, en disant à Lars, c'est ça que tu veux faire, hein? Tu veux faire des trucs plus facile, plus simple, comme ça. Et en fait, ils trouvent tout ça génial et ils l'ajoutent, ils l'intègrent, ils en font le pont de ce qui va devenir The Four Horsemen. Et c'est une plaisanterie qui, du coup, était à l'origine de Cliff Burton. Il a déjà cette influence dans le groupe, puisque c'est lui, au départ, qui met beaucoup de Lynyrd Skynyrd ou Lynyrd Skynyrd, on sait plus comment ça se prononce, mais qui met ça en fait, qui en écoute beaucoup avec Dave Mustaine, et puis de toute façon qui va initier aussi tout le reste du groupe un peu à d'autres musiques. On va préciser d'ailleurs que ce changement, si j'ai recherché un petit peu pour savoir exactement à quel moment il se relocalisait à San Francisco, il semblerait que ce soit entre le 11 et le 12 février. Donc c'est allé assez vite quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de déménagements à prendre en charge. Je pense que a priori, de ce qu'on retire de tout ça, c'est il y a une espèce de libération pour le groupe. Je crois que c'est pas exagéré de dire qu'il y a une espèce de soulagement. Ils ont peut-être l'impression que c'est le vrai départ du groupe, parce qu'ils sentent qu'à San Francisco, il se passe beaucoup plus de choses pour la musique qu'ils pratiquent qu'à Los Angeles. Parce qu'on rappelle qu'à Los Angeles, les promoteurs, ils trouvent Metallica soit trop punk, soit trop heavy, ils rentrent dans aucune des cases. Alors qu'à San Francisco, ils ont beaucoup de succès. Et ils sont pris en plus sous l'aile de Mark Whittaker, qui a déjà, si je ne fais pas d'erreur, assuré le boulot d'ingé son pour Metallica quand ils sont passés à San Francisco. Les quelques dates qu'ils ont fait avant, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est le cas. Et ils ont beaucoup sympathisé avec lui. Lui, il croit en eux, hein, parce que c'est le manager d'Exodus, mais il croit beaucoup en eux et il va les prendre sous son aile un petit moment quand même. On va le voir par la suite. Qu'est-ce qui est intéressant aussi à noter sur cette période, c'est que si on en croit les dires de Chuck Billy, donc qui est le chanteur de Testament, dès leur arrivée à San Francisco, Metallica commence déjà, les membres de Metallica commencent déjà à influencer tous les autres. C'est un truc qui ressort souvent, ça. Ils disent, en fait, les mecs sont arrivés et ils avaient déjà quelque chose, un truc, un charisme, un son, quelque chose, et ils changent déjà la donne au sein de la scène de San Francisco, alors même qu'ils sont pas d'ici. Bon, c'est assez amusant quand même de voir l'influence qu'ils peuvent avoir. Le patron à San Francisco à l'époque, c'est Exodus, hein, je crois qu'on peut le dire. c'est le meilleur groupe de la région. Donc eux, je pense qu'ils voient... En fait, je sais pas si t'as des anecdotes d'ailleurs à ce niveau-là, mais eux, Exodus, je pense qu'ils voient le truc d'un œil plus peut-être circonspect au départ, parce que c'est peut-être un concurrent.
C'est quand même un peu de concurrence, même s'il y a ce côté on est soudés. Après, il faut... on va pas faire la bio d'Exodus, mais Exodus, c'est aussi un groupe qui a une réputation de méga gros barjo. Je crois qu'on peut en parler avec Paul Baloff, le chanteur, qui est complètement givré. En fait, c'est des gars... Je vais le résumer très grossièrement, mais ils picolent comme des oufs, ils prennent du speed, ils cassent tout, et ils sont très dans le délire quand même extrême. Enfin, t'es frère de métal ou tu l'es pas, il y a tout ce côté... Enfin, ils se bastonnent à gogo, ils détruisent tout. Ils sont assez connus pour ça quand même. Pour les frasques de la jeunesse d'Exodus, c'est assez marrant, quoi. Il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet.
Et puis, ils ont la réputation de pas mal assurer sur scène aussi. Donc, c'est quand Metallica arrive et que tout le monde dit « Putain, Metallica, c'est les futurs patrons, c'est les... Ils vont tout booster dans cette scène. » Exodus, ils disent « Eh, mais nous, on était déjà là. » Et il y a une espèce... Alors, ils se respectent, ils s'apprécient, ils sont amis, ils sont très proches. Je vais pas commencer à dire qu'il y a une rivalité. Il y a jamais eu de rivalité réelle entre les deux, a priori. Mais il y a des petits... Enfin, on en a déjà abordé des exemples dans les épisodes précédents. Il y a quelques petits trucs, quelques petites bisbilles entre les groupes. Ça se chambre un petit peu. Mais je pense que c'est plutôt, justement, assez sain, en fait. C'est que les deux groupes se servent l'un et l'autre et ça pousse à tirer tout le monde vers le haut. Et ça, c'est un truc qui ressort. Tout le monde se dit, avec Metallica qui vient ici, on est en train de souder une scène, une vraie scène fraternelle. De la nouvelle scène de la thrash metal américain, et on va tous se tirer vers le haut, on est une grande famille. C'est un truc qui ressort des témoignages d'absolument toutes les personnes qui ont connu cette époque, qui ont vécu à l'époque. Même quand on prend le documentaire Murder in the Front Row, on peut le voir. C'est un documentaire que j'ai jamais trouvé vraiment extraordinaire. Je dois avouer que j'étais un poil déçu par ce documentaire. Je m'attendais à beaucoup mieux quand on sait tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont. Mais il y a quand même un truc qui ressort, c'est la fraternité et le côté insouciant et le côté on va tout casser. On est des oufs, on va tout casser. Il y a aussi cette grande ambition, mine de rien, qui a toujours été présente chez Lars, cette ambition de réussite commerciale. Parce que Lars, il veut pas que Metallica, ce soit juste le patron de San Francisco, il veut vraiment que Metallica, ça cartonne, ça marche partout. Et en voyant que les choses prennent bien, il est déjà là, activement, en recherche d'un label, en recherche de quelqu'un vraiment qui va avoir les épaules pour que Metallica soit distribué au maximum possible, dans tous les États-Unis et même en Europe.
Et que Metallica fasse un vrai album aussi, parce que c'est toujours pas
absolument
le cas. Du coup, ils vont aller voir leur ami Slagle en lui disant « Écoute, c'est cool, ils ont trouvé un studio à un moment à San Francisco, ouais. 10 000 dollars. »
Il leur a proposé un rabais et un enregistrement à 10 000 dollars.
Ce qui
est assez intéressant, mais ça va pas aboutir. Le problème de Brian Slagle, de toute façon, c'est qu'il a pas les fonds, lui, il a pas les reins assez solides. Pour l'ambition de Metallica, lui, il leur propose des choses. Lui, bien sûr qu'il adorerait le faire. Il leur dit ce que vous voulez, en fait, moi, je peux pas l'assurer. Je connais pas assez de monde, j'ai pas assez de puissance financière, donc ça c'est pas possible. Il y a plusieurs personnes. Après, la démo No Left Till Laser, elle va traverser l'Atlantique, elle va être reçue par Neat Records, qui est quand même un label assez important de Newcastle en Angleterre, qui est tenu par Brian Ross. Brian Ross, mais c'est du groupe Blitzkrieg, donc qui est un groupe quand même assez en vue aussi à l'époque. Et lui, il est très impressionné par Metallica. Il y a quelque chose, il y a un début de quelque chose, mais ça débouche pas sur un contrat à cause de l'argent, toujours l'argent en fait. Lars Ulrich va le dire lui-même, c'est une interview de avril 83 où il dit on aurait pu et c'était bien embarqué pour signer chez eux, mais en fait problème d'argent, le groupe est déjà trop gros pour certains labels en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Alors après il parle avec d'autres labels, j'avais noté quelques labels, Firesign qui est le label qui bosse avec Riot, Food for Soft en Angleterre, il y a Columbia au Japon. Ça va jusque là. Alors là, j'ai pas les détails, mais je sais qu'il y a il y a discussion. On avait déjà parlé dans l'épisode précédent, il me semble, de Shrapnel, Varney.
Mike Varney.
Voilà. Il y a tous ces trucs-là. On en revient évidemment à Brian Slagle, mais pour l'instant, c'est très difficile de vraiment trouver quelque chose qui va vraiment marquer, concrétiser quelque chose de sérieux pour sortir un album, vraiment un album. Parce que Brian Slagle va leur suggérer un moment de pourquoi vous sortez pas No Left Till Laser sous format EP.
Absolument.
C'est-à-dire, on fait ça vraiment ça les intéresse pas.
Bah, surtout, le master qui doit être une cassette, quoi. C'est chaud, quoi, quand même. Mais non, non, ça n'intéresse pas le groupe. Le groupe a plus d'ambition que ça, que de juste ressortir une démo aussi bonne soit-elle. Hein, parce que c'est vrai que Modern Teenager, c'est quand même vraiment très cool.
Mais oui, c'est ça. Et en plus, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'on peut se dire, putain, ils ont la grosse tête, les mecs. Ils peuvent pas commencer petit et puis ça va prendre petit à petit. Mais en fait, Metallica est déjà, on l'a déjà vu aussi. Je me répète, mais on a dit beaucoup de choses dans l'épisode précédent. Mais Metallica, là, on vous a fait beaucoup d'historiques où ça prenait peut-être un petit peu le temps. Je sais qu'on a quelques amis, Mathieu Yassel, un petit clin d'œil sur le Sabbath, qui rigole en disant, vous faites semaine par semaine, si je faisais ça sur Black Sabbath, je serais encore là, au premier mois. Mais en fait, c'est parce qu'au tout début, c'est un peu long, c'est un petit peu fastidieux, c'est un peu compliqué. Et là, on vient de passer la rampe de lancement. Et là, ça va vite. Et ça commence à prendre vraiment beaucoup de poids. Et on est en février, je le rappelle, février 83. C'est-à-dire, Metallica n'a pas sorti d'album, mais a déjà un fan club. Ça mérite d'être mentionné quand même. C'est pas le cas de tous les groupes. Donc, Metal Militia, qui est un fan club qui est lancé par Lance Shapiro et KJ Dutton, dont on va beaucoup parler parce que c'est quelqu'un qui a une importance primordiale pour Metallica. Et on vous mettra sûrement le document. Il y a une newsletter qui date donc de février 83, qui a été éditée donc par Lance Shapiro et KJ Dutton. KJ Dutton qui n'a à ce jour pas encore rencontré Metallica de mémoire, parce que lui il habite dans l'Oregon, à Roseburg, donc il est très loin, très très loin d'eux. Il a tout découvert à distance. Et le fait est qu'il était tellement enthousiaste que c'est à son initiative, il a lancé un fan club et auquel participe notamment Brian Lou, le photographe dont on a beaucoup parlé aussi. Et le truc un peu marrant, c'est que KJ Dutton, il va localiser son fan club chez ses parents, puisqu'il est encore, lui, il est encore adolescent, il n'a pas encore de chez lui. Et encore aujourd'hui, là, on est en 2022, il y a encore des gens qui se rendent à cette adresse, puisque l'adresse existe toujours, juste pour savoir s'il y a encore quelque chose, quoi. S'il y a encore moyen de choper quelque chose. Et dans les années 90, quand Metallica devient énorme avec le Black Album, désolé, on spoil, il y a des gens qui prenaient littéralement d'assaut la maison des parents de KJ Dutton pour savoir.
Tu peux préciser, c'est vrai que cette adresse, du coup, elle apparaît déjà, on avait déjà, je pense, vite fait parler sur No Left Till Laser, en fait. Sur certaines jaquettes.
Oui, elle apparaît sur No Left Till Laser. Absolument. KJ Dutton, lui, il fait énormément de choses pour Metallica. Il fait énormément de travail ingrat, hein, des trucs vraiment pénibles. Il envoie des centaines de démos à des fans, à des fanzines, à des labels. Il va faire ça, faut vraiment prendre en compte. Il va gérer ce fan club jusqu'à Master of Puppets, où le Master of Puppets, ça va un petit peu se professionnaliser parce que Metallica va vraiment devenir légendaire déjà. Et il avait parlé de quelque chose comme 300 lettres par semaine, voire plus. C'était devenu complètement... Arrivé en 86, ça devient complètement ingérable. C'est juste plus possible. Donc là, en fait, en 86, ils vont transférer ça à une boîte de merchandising qui est située sur la côte Est. Mais là, en 83, il arrive encore à gérer son truc, même si le succès est vraiment immense. Et donc, pour $5, tu peux avoir une carte, un badge. Quand tu arriveras au fil des années, Radio Latin, Master of Puppets, tu auras des livrets avec des photos, biographies, etc. Tu peux aussi lui acheter donc la démo No Left Till Laser. Tu pourras lui acheter la cassette, le live qu'ils ont enregistré avec un boombox dont on a parlé dans l'épisode précédent, pour $4. Derrière, Metallica reverse 20% des bénéfices à Dutton pour faire tout ce boulot. Et c'est à cette même période, donc là je vous parlais de la newsletter parce que je vais y revenir rapidement. La newsletter du fan club Metal Militia nous permet d'apprendre plusieurs choses, notamment le groupe annonce officiellement la sortie de la seconde version de Metal Massacre chez Metal Works Records, donc c'est une sous-division d'Atlantique, donc pour décembre, donc pour beaucoup plus tard. Mais le succès est tel que Metal Massacre va être édité, donc le fameux Metal Works Records qui ne va jamais reverser un centime à Brian Slagel par la suite, pareil, on en avait parlé. C'est là qu'on apprend enfin officiellement que le groupe va bientôt enregistrer son premier album et que son objectif, c'est de le sortir avant l'été. Ils en profitent pour annoncer le recrutement de Cliff Burton, qui est comparé à Geezer Butler, et ils précisent même, ça c'est assez intéressant, qu'ils sont en train de travailler sur une ballade heavy et épique qui s'appelle The Hills Run Red. Et c'est un morceau, en fait, qu'on va pas voir avant très longtemps, puisque ça va devenir Leper Messiah, et c'est le riff principal écrit par Dave Mustaine. Et c'est le moment, donc février 83, où ils annoncent aussi que The Mechanics a été retravaillé et renommé The Four Horsemen. Plein de choses se mettent en place, plein de choses se concrétisent. On a un fan club, on a l'ambition d'enregistrer un album qui est de plus en plus concrète, donc voilà, les choses bougent.
Les choses bougent, le groupe fait la teuf, il y a d'ailleurs une petite anecdote assez connue. Donc oui, l'esprit de camaraderie est toujours à son maximum, surtout avec 200 grammes dans le sang. Il y a une anecdote avec le guitariste d'Armored Saint qui se chamaille avec Lars Ulrich, bon, qui le fout quand même au sol, et notre ami le karatéka Dave Mustaine lui casse la cheville, ce qui évidemment jette un froid dans les relations du groupe pendant quelques temps, mais évidemment plus tard nos frères de métal se réconcilieront. Mais bon, voilà, c'est pour donner une ambiance sur un petit aperçu de l'ambiance dans les soirées bien alcoolisées et qui finissent des fois un peu mal, comme c'est le cas là.
Bah justement, et pour l'ambiance là, il y a on est en février, le 20 février, Exodus joue à Mabué, Metal Mania Benefit, et Metallica va voir Exodus jouer sur scène. Et pendant le solo de Kirk Hammett qui se produit avec Exodus, on a encore un exemple de cette franche camaraderie et d'amitié virile. James, Dave et Lars, ils viennent foutre le bordel directement sur scène. Ils encouragent plusieurs personnes à monter, à être bangés et à vraiment à pas ruiner le show d'Exodus parce qu'ils sont juste bourrés en fait, ils veulent juste s'amuser. Ils se font dégager par la sécurité, Manu Militari. Si on retient cette anecdote, c'est surtout que officiellement, techniquement, c'est la première fois qu'ils sont sur scène avec Kirk Hammett. Le 20 février.
Détail. Voilà. Sympathique. Donc évidemment, Kirk que nous retrouverons plus tard. Je précise aussi vite fait pour l'histoire avec Sandoval que des années plus tard, Dave Mustaine offrira une guitare ESP pour se faire pardonner en mode les 12 steps du
ah oui.
pour se repentir des alcooliques anonymes. Voilà, donc il demandera le pardon avec un beau cadeau, une guitare ESP, c'est quand même plutôt cool. Moi, j'excuse hein.
Oui, Julie, après, j'imagine qu'il l'a pas, payé, mais.
Je trouve que c'est quand même cool, tu vois.
Ouais, ouais. Voilà,
on n'y perd pas tout.
Après, dis donc, il doit faire ses actions, il doit en faire à peu près tous les 2-3 ans pour rattraper un peu le.
C'est pour ça qu'il change souvent de marque de guitare. Là, il envoie toujours, il envoie les Gibson en ce moment, là, il les file.
Parce que c'est comme avec Ron McGovney, c'est vraiment chien et chat, quoi. Il se déverse des torrents d'insultes pendant des années, puis après, ils s'excusent, ils sont bras dessous, ils font l'anniversaire des 30 ans, ils sont super potes, puis après, ils redisent des saloperies l'un sur l'autre. Et là, encore récemment, quand Dave Mustaine a dit qu'il était le mal alpha dans Metallica à l'époque, Ron McGovney n'a pas pu s'empêcher de dire « Moi, je ne me souviens pas de ça, etc. » Et c'est tout le temps. Alors que encore peut-être quelques mois avant, McGovney avait partagé « Ah, Dave, tu es mon frère. On a vécu tellement de choses ensemble. On est des amis à vie, etc. etc. » C'est sans arrêt. C'est tout le temps, toujours.
On peut quand même remarquer que Mustaine est très inconsistant dans ses propos aussi à ce niveau-là. Il revient un peu. On a l'impression qu'il boucle encore dessus. Et c'est vrai que là, la promo du dernier Megadeth, il a pas arrêté, quoi. Moi, j'ai vu, je lis Blubbermouth, j'ai l'impression qu'il y a une connerie par jour qui est sortie.
Ah, puis il parle de Metallica tout le temps, quoi. C'est
comme si c'était hier, quoi. Alors que
il ramène tout à Metallica, ans, quoi. Tu vois. Ouais, et c'est tout le temps. Moi, mais dans Metallica, je faisais ci, je faisais ça, j'étais important, c'était moi le leader. Et tu te dis, mais c'est fou, quoi.
C'est fou. Ouais.
Il a réussi même à aller sortir un bouquin dans lequel des gens ont classé, enfin les auteurs ont classé les meilleurs guitaristes. Et il est sorti numéro 1 et il arrive à dire voilà, ça c'est une des plus grandes fiertés de ma vie, il y a des mecs dans un livre qui m'ont mis meilleur guitariste, c'est bien la preuve que je suis un grand guitariste. Mais t'as envie de dire, mais
dude,
Dave,
t'es un des meilleurs groupes qui existent sur cette putain de planète, quoi. Arrête ton numéro, quoi, t'as pas besoin de ça. Mais oui, les insécurités hein, et les problèmes psychologiques hein, de toute façon, c'est terrible.
Et là, il a mentionné le fait qu'il rêve d'écrire de la musique avec James Hetfield à nouveau, donc voilà, à suivre.
Il n'y a pas que lui qui rêve de ça, pour être tout à fait franc, parce que là, putain, ça ferait des... Les deux plus beaux poignets du métal, hein. Bon, bref, allez, j'arrête mes conneries.
Après toutes ces péripéties, cheville cassée, et puis on monte sur scène avec Kirk Hammett parce qu'on écrit l'histoire en avance. Et on arrive quand même, 28 décembre, la première répétition. Après le 28 décembre, on arrive le 5 mars, The Night of the Banging Head, premier concert avec Cliff Burton à la basse au Stone de San Francisco. Kirk Hammett est encore de la partie, toujours, puisqu'Exodus est en première partie. Et ce sera d'ailleurs le dernier concert de Kirk avec Exodus. Il y a 300 personnes, $5 le ticket. Ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, puisqu'on parle d'Exodus, ce soir-là, ils vont jouer Die by the Sword, qui est un morceau que Kirk va aller repiquer plus tard pour Creeping Death, pour les fameux ponts avec les Die.
Les Die by my end.
Exactement. Ensuite, Laz Rockit, pareil, il me semble que c'est pas la première fois qu'ils jouent avec Metallica, ils vont partager plusieurs fois l'affiche. Et Metallica, James va profiter du premier concert de Cliff pour lui dédicacer le morceau Phantom Lord. Lars, lui, il fête les choses à sa manière, il s'est acheté une nouvelle paire de grosses caisses. Et c'est intéressant de noter qu'ils vont jouer The Mechanics et Jump in the Fire, qui sont deux morceaux qui, pour l'instant, ont encore les premiers textes de Dave Mustaine. Un Dave Mustaine qui va, puisque c'est une tradition, casser une corde sur Motor Breath et se plaindre en se disant « Pourquoi suis-je le seul à toujours casser mes cordes ?»
Probablement en parler 40 ans après. Cette corde de sol qui a pété.
Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier concert de Cliff, et dès son premier concert, c'est une sorte d'accord tacite qu'il y a eu avec les autres membres du groupe, il va jouer Anesthesia Pollinctif, son fameux solo de basse, tout seul sur scène, une chose qui lui tient très à cœur. Il va tout de suite évidemment faire sensation, tout le monde les trouve incroyables. De plus que le groupe s'est doté d'un nouveau light show et de nouveaux effets, ils ont complètement rodé leur truc, c'est-à-dire que là pendant plusieurs mois, ils n'ont pas fait que déménager, ils ont préparé vraiment le niveau suivant. Et le niveau suivant, il passe aussi par l'enregistrement d'une nouvelle démo, alors beaucoup plus courte, qui vont enregistrer donc quelques jours plus tard, le 16 mars, et qui va être, elle va avoir plusieurs noms officieux, donc puisque c'est une démo, il y a jamais vraiment de nom officiel, mais c'est Megaforce, démo Megaforce, donc qui aura la particularité d'être la dernière démo avec Dave Mustaine, mais là le but c'est surtout de présenter Cliff et de trouver un label, on en parle depuis tout à l'heure, donc cinquième démo. Deux morceaux, No Remorse et Whiplash, pour la première fois. C'est produit par Mark Whittaker, puisque lui, on l'a dit, il a vraiment envie de prendre Metallica sous son aile, et il a réussi à financer ça dans le cadre d'un projet scolaire. Il a réussi à faire d'une pierre deux coups, et à allier plaisir et travail. On avait dit donc plusieurs noms, puisque on peut l'appeler aussi la KUSF Demo, parce que c'est la radio KUSF qui est la première, tout simplement, à diffuser cette démo. Dans l'émission de Ron Quintana, donc on connaît aussi, on a beaucoup parlé de lui, on parlera encore de lui, KUSF Rampage Radio. C'est une radio sur laquelle Metallica passe très régulièrement puisque c'est des potes de Ron Quintana, donc il les invite dès qu'il peut. Ils sont évidemment les trois quarts du temps bourrés, ils jurent énormément, ils disent énormément de grossièreté à l'antenne, ce qui fait que Quintana est momentanément suspendu par la station de radio parce qu'il reçoit des plaintes de parents qui disent que qu'est-ce qu'on met dans les oreilles de leurs enfants.
C'est vraiment scandaleux.
Metallica cherche par tous les moyens à diffuser une musique enregistrée de manière plus professionnelle, vraiment à sortir de l'amateurisme et du garage pour vraiment devenir un vrai groupe. Donc ils vont célébrer la sortie de cette démo dans la Metallica Mansion de Mark Whittaker, donc une soirée assez mémorable puisque Dave va s'endormir bourré à 21h avant même le début de la soirée. Comme tout bon poivreau qui se respecte. Donc, ils vont tous lui dessiner des trucs dessus, puisque c'est ce qu'on fait quand quelqu'un s'est endormi bourré.
Des bites.
Voilà, probablement. On va voir si on trouve des photos, j'en doute.
Je doute aussi.
Paul Baloff et Gary Holt, puisque finalement, la soirée, quelqu'un qui est déjà endormi bourré à 21h, donc il faut faire mieux. Donc, eux, ils défoncent une voiture qui est abandonnée sur la route en panne, pas loin de la maison, quelques jours auparavant. Donc, ça agaçait beaucoup Mark Whittaker, qui disait, c'est quoi cette voiture-là, abandonnée, là, qui reste, qui est là, qui sert à rien, hein? Donc, les gars, ils font, bah, attends, on va t'en débarrasser de la voiture. Donc, ils vont la détruire. Et d'ailleurs, ils vont poser devant la voiture pour des photos le lendemain. Alors, c'est des photos que j'ai jamais vues. On va regarder si on trouve ça. Je suis pas persuadé que ce soit facile à retrouver. Le propriétaire, plus tard, il va revenir. Il va découvrir que sa voiture a été détruite, il va péter un plomb, il va s'introduire dans la maison et il va voler la stéréo de Lars Ulrich. Ça, c'est drôle. Et il va exiger des excuses et de l'argent pour rendre l'appareil. Voilà où ça les mène. Et pour des conneries faites, évidemment, par des mecs d'Exodus qui sont plus là. Mais voilà, ça c'est vraiment, on en aura d'autres, on en a des savoureuses qui arrivent, mais ça, c'est un exemple typique du genre de truc qui arrive à peu près tous les jours ou tous les deux, trois jours à la Metallica Mansion de San Francisco. Là, du coup, on arrive au printemps, printemps 83, mais on va dire, c'est surtout au mois d'avril que beaucoup de choses vont se décanter, mais on va quand même finir le mois de mars en sachant que on avait dit qu'on était sur une rampe de lancement, mais là, les choses vont s'accélérer encore plus. Enfin, après, tu m'arrêtes s'il y a des choses entre-temps, mais moi, je vais quand même parler du 19 mars. The Heaviest Night of Your Life, qui va s'avérer être le dernier concert au Stone avant de partir sur la côte Est, puisqu'on ne vous spoil pas en vous disant que Metallica va bientôt partir sur la côte Est. On va bientôt vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est des soirées, c'est les soirées The Night of the Begging Head. C'est des soirées vraiment enfin, entre potes. Tu connais quasiment tout le monde dans le public. C'est la scène familiale quoi, de San Francisco. Ce jour-là, ils jouent avec Warning et Culprit, qui est un groupe de heavy metal de Seattle qui est assez halluciné par l'agressivité du public. Eux, de là où ils viennent, c'est San Francisco, c'est la jungle. Ils sont vraiment impressionnés de ce qu'ils découvrent en venant jouer au Stone et surtout avec Metallica en plus, qui sont les rois du bled. Alors c'est intéressant, enfin certains le savent déjà et ou l'ont remarqué, il y a certaines scènes de ce concert qui sont très connues puisque il y a même une interview qui sont disponibles sur la fameuse VHS Cliff Hemel, donc dont on reparlera plus tard. C'est beaucoup d'images filmées par des fans dans le public, mais il y en a qui viennent de ce fameux concert.
De cette soirée-là, oui.
Voilà, un concert pour lequel Phantom Lord est introduit par une petite instrumentale. Cette petite pièce instrumentale, pour l'instant, est intitulée When Hell Freezes Over, et ça va devenir The Call of Cthulhu. bientôt, mais pas tout de suite. Et ce soir-là, ils vendent leur fameux t-shirt noir dont on a déjà parlé, il me semble, Metal Up Your Ass. Cette fois-ci, ce n'est pas Dave qui casse une corde, mais James, sur le morceau The Prince, puisqu'ils font toujours des reprises. Mais Dave n'est pas en reste, il fait toujours des histoires, il se bat avec des gens, de toute façon, il se chauffe à presque tous les concerts, puisqu'il boit toujours plus et toujours plus vite que les autres. Et c'est ce qui continue, parce que j'allais dire, c'est ce qui va commencer à créer de gros conflits. Mais en fait, il y a eu une espèce d'accalmie, une petite parenthèse enchantée avec l'introduction dans le groupe de Cliff Burton, mais les problèmes avec Dave persistent. Et il continue de provoquer des conflits au sein du groupe, et il manque même de provoquer des accidents, puisque on n'a pas oublié que c'était Ron McGovney qui conduisait le van du groupe. C'était un peu lui le chauffeur et l'homme à tout faire, mais maintenant que Ron McGovney est parti, qui c'est qui conduit le van du groupe? C'est Dave Mustaine.
Ce qui est quand même le pire choix de la part des membres du groupe, de dire c'est cool, mais vas-y Dave, prends les clés, ramène-nous. Ce qui est quand même un peu dingue, je trouve, mais bon.
Bah, c'est à vérifier, mais je me demande si James, à cette époque, alors je crois qu'il a déjà son permis, mais je crois qu'il s'est
fait
sauter. A
priori, il a son permis et il a même une voiture, a priori.
Ouais, mais il me semble que c'est encore une fois à vérifier, mais c'est une époque où il se fait souvent sauter et retirer son permis, parce qu'il se fait toper bourré ou qu'il fait des conneries, il abîme même, il casse des choses. Il tue personne, évidemment, il n'a pas d'accident dramatique, mais il fait trop de conneries.
Il aurait pu, hein.
Oui, surtout il l'a fait, on le sait pas, mais on a des anecdotes qui arrivent. Et donc, Dave, c'est quelqu'un qui met vraiment la sale ambiance. Il faut bien se rendre compte. On a notamment un témoignage de Scott Earl, qui était le bassiste de Culprit, donc qui garde pas un souvenir mémorable de ce fameux concert. Lui, il dit que c'était sympa, mais voilà, il dit qu'il y avait quelques centaines de personnes. C'était plutôt un bon souvenir, mais c'était pas incroyable. Par contre, ce dont il se souvient et qu'il a pas trouvé génial, c'est que Dave Mustaine est venu shooter dans leur pédale parce qu'il partait pas assez vite. Il quittait pas assez vite la scène parce que pour le changement de plateau. Et Quand le batteur de Culprit, donc qui s'appelait Bud Burrell, a vu que Dave Mustaine était en train de taper dans leur pédale et de faire le kéké, il est allé attraper par le cou, il a commencé à essayer de se battre avec, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, il avait juste affaire à une épave et que ça servait à rien de discuter. Dernière petite anecdote, du côté de Scott Earl, il s'intéresse pas franchement au concert Metallica, parce que lui encore, il vient d'une autre scène et il trouve pas ça passionnant musicalement, mais par contre, quand il entend le solo de Cliff Burton, il est attiré par ce qu'il entend et il revient dans la salle, parce qu'il est à l'extérieur, je crois, en train de boire un coup, un truc comme ça, et il vient voir un peu ce qui se passe, parce qu'il se dit, c'est quand même pas banal. Et on peut noter que des années plus tard, quand Cliff va tragiquement disparaître, notre ami Scott Earl, il fera partie des bassistes qui vont auditionner pour remplacer Cliff. Donc c'est les petites anecdotes qu'on a sur ce fameux concert, qui encore une fois est historique dans le sens où on a des images de ce concert, on a quelques traces qui ont été immortalisées par Cliff et Moll. Et on revient, donc, on disait, Dave Mustaine conduit le van, presque toujours, c'est le préposé à conduire le van du groupe, donc on a dit c'est une excellente idée. Il provoque un accident, ce qui commence à vraiment entamer, donc au mois de mars, hein, là on est au mois de mars en général, il fait pas mal de conneries et il provoque un accident avec le U-Haul, ce qui entame sérieusement la confiance des autres membres, ce qui est assez logique. On a appris, par une lettre de Cliff Burton, je sais plus à qui, soit sa petite amie peut-être, je sais plus, mais on peut retrouver le document, qui raconte cette anecdote assez folle où ils ont eu cet accident, ce fameux accident au mois de mars, ils attendent une dépanneuse et il y a une autre voiture qui perd le contrôle et qui manque de les tuer en fracassant le U-Haul. C'est-à-dire qu'ils viennent déjà d'échapper à un accident assez grave par la faute de Dave. Et en plus, ça provoque je sais pas si c'est eux, c'est peut-être le hasard, mais il manque vraiment de vivre un drame total avec un accident qui part de Dave Mustaine. Tout part de Dave Mustaine qui plante le U-Haul. Donc là, il commence à se dire, Lars et James, ils se souviennent que, pareil, c'est des choses qui ont été rapportées par des proches du groupe de l'époque. Ils se disent, bon, peut-être falloir qu'on pense à remplacer Dave si les choses continuent comme ça, parce que voilà, on s'est déjà débarrassé de Ron McGovney, mais on a encore un problème. Et le fait est que c'est à cette époque qu'ils écoutent de plus en plus Exodus, qui est en train de devenir un groupe ami et puis qui est quelque part le principal concurrent, même si c'est pas le mot est peut-être un peu fort. Et ils sont déjà très impressionnés par le jeu de Kirk Hammett. Ils le trouvent génial, même s'ils pensent pas encore, ils sont encore pas à penser à le remplacer. Là, on est au mois de mars, il va se passer beaucoup de choses pour Metallica et on commence déjà à envisager de se séparer de Dave Mustaine.
Mais c'est surtout qu'en parallèle, on a quand même Dave Whitaker, on n'en parle pas des masses, mais il vit littéralement chez eux, avec eux, ils travaillent avec eux en permanence, donc en fait, ils passent là quasiment tout leur début à San Francisco, 100% du temps avec lui. Et ça ouais. devient un membre assez influent aussi. Donc, c'est évident que lui qui est technicien et manager du groupe, il est intéressé par ces deux aspects. Je pense que Dave Mustaine, c'est pas un membre que tu apprécies à un quelconque de ces deux postes, quoi. Donc, je pense aussi que cette idée de Kirk Hammett, elle viendra aussi quand même pas mal de lui par la suite.
Ah oui, bah, on va le voir. Alors, on n'y est pas tout de suite, mais on va le voir. Enfin, si d'ailleurs, on peut raconter. Alors, si. Mais d'abord, ce qu'on va faire, on va vous raconter l'anecdote, effectivement. Plusieurs anecdotes, dont une qui implique Mark Whittaker, mais d'abord, faut quand même qu'on vous explique pourquoi, parce que tout ça va se passer sur la route, jusqu'à la côte Est. Faut quand même qu'on explique pourquoi Metallica va se rendre sur la côte Est.
Eh bien, ça part sur un marché opus, si je ne m'abuse. Sur un petit marché opus sur la côte Est, à côté de New York.
Ouais, donc dans Brunswick, New Jersey, le fameux Rock'n'Roll Heaven, donc East Brunswick, New Jersey, le fameux Rock'n'Roll Heaven. Qui est un magasin donc sur le marché opus qui est tenu par John et Marsha Zazula. Donc évidemment on va beaucoup parler d'eux. On vous dit tout de suite John Zazula, c'est une John et Marsha, faut toujours associer Marsha parce que les deux vont vraiment de pair et c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont accompli tous les deux. Je pense qu'un jour on vous fera un épisode hors série sur eux, rien que sur eux, sur tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a énormément de choses à raconter et leur histoire est vraiment passionnante, ce qui nous permettra par ailleurs de leur rendre hommage puisqu'ils sont tous les deux décédés très récemment. John Zazula est même décédé cette année. Mais d'abord, parce que là, on est sur l'historique de Metallica, et si on commence à vous faire des tartines biographiques de membres, ouais. de personnalités qui ne sont pas membres du groupe, ça va, on va pas y arriver.
Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup.
Mais là, on est au printemps 83. Il se trouve que Johnny Z, puisque c'est son surnom, et ben lui-même se présente toujours tel, comme si, sous le patronyme Johnny Z, il découvre un extrait live de Metallica, puisque on dit souvent que John Zazula a son premier contact avec Metallica par la démo de Left Side Laser, mais en réalité c'est le live Metal Up Your Ass, le fameux live enregistré à l'arrache avec une boombox
à côté de la console de mixage.
Exactement, que lui tend un client, ce client qui serait a priori Bob Muldoney, donc du magazine Kick-Ass, qui ensuite va également lui faire passer No Left Till Laser. Alors ce serait lui, parce qu'après il y a des versions qui diffèrent. Scott Ian dit qu'il était présent, il y a des anecdotes où il dit qu'il était là quand.
Mais du coup quelqu'un de la côte Est, on est d'accord.
Quelqu'un de la côte Est.
La côte Ouest.
La côte Ouest. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs contacts avant d'arriver à Metallica pour Zazula. C'est-à-dire que Zazula, il est dans son magasin, on remet le truc, il est en train d'écouter un album d'Angel Witch, il se souvient qu'il est en train d'écouter ça. Et il y a donc le fameux Bob Muldoney qui lui dit, tiens, il faut que t'écoutes ce truc, c'est très intéressant. Donc il découvre The Mechanics, qui le met vraiment sur le cul.
Ouais,
il est aussi très impressionné par la reprise Am I Evil. Ça, c'est les deux morceaux qu'il retient et il fait, ok, ces mecs-là, moi j'ai l'ambition à cette époque, John Zazula, il a l'ambition vraiment de lancer des groupes et de développer leur carrière et même des groupes étrangers. On va y revenir, mais pas que des groupes américains. C'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieux. Alors même qu'il n'a pas forcément tous les moyens de ses ambitions, mais vous allez voir aussi, il y a des bonnes anecdotes à ce sujet. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa cassette. On vous l'a dit tout à l'heure, sur la cassette, il y a l'adresse du fan club et un numéro de téléphone aussi. Et il appelle KJ Dutton, donc dont on a parlé tout à l'heure, celui qui tient le fan club. Et KJ Dutton lui donne le contact de Lars Ulrich. Et il y a une anecdote qui dit que c'est Lars Ulrich qui a appelé John Zazula sur les conseils de Ron Quintana et Ian Callen de Metal Mania. Et donc, c'est ça qui est amusant. C'est que, en fait, les deux hommes cherchaient à entrer en contact parallèlement. D'un côté, t'as les deux mecs, donc Ron Quintana et Ian Callen de Metal Mania, qui sont là à dire à Lars, il y a un mec là du côté de New York, il faut que tu l'appelles parce qu'il y a vraiment moyen que tu débloques ce que tu n'arrives pas à débloquer au niveau financier et au niveau de tes ambitions pour Metallica. Et exactement dans le même temps, John Zazula découvre Metallica. Donc ils sont tous les deux en parallèle à essayer de se contacter. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, donc Scott Ian, lui, dit qu'il était dans le magasin quand Zazula a reçu la démo. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas, parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent, c'est tout à fait possible, hein. Le magasin, il y avait toujours beaucoup de monde et il y avait tous les métallus du coin, donc c'est tout à fait crédible. Et il lui fait écouter la cassette et Zazula lui dit, ces mecs-là, je vais les amener à New York et je vais leur faire enregistrer un album. Donc ça, c'est après avoir eu des discussions avec Lars, hein, on suppose. Mmh. Donc, pour faire enregistrer un album à Metallica, il faut de l'argent. Donc, il va déjà réunir 1 500 $.
Juste pour les faire venir, déjà.
Voilà, ce qu'il faut qu'il les fasse venir, en fait.
Il les appâte déjà en disant, venez jouer, j'ai des dates, là. Parce qu'il organise, il met ses poulains quand même sur des concerts dans le coin.
Ouais.
Il dit, voilà, j'ai deux dates, venez, vous pouvez jouer. Et après, il dit, on va se débrouiller pour enregistrer un truc. Il faut savoir que quand même, bon, on reviendra plus en détail, mais c'est vrai que les Azula, ils ont vraiment, ils sont pauvres. Ils sont vraiment sous le seuil de pauvreté carrément. Ils sont obligés de se faire donner des sous par leurs parents pour pouvoir manger. Et en plus, Marsha vient d'accoucher et ils ont un nouveau-né. Donc c'est un petit peu chaud, mais ils arrivent quand même à trouver 1 500 $, à les envoyer au groupe pour que le groupe s'emmerde à louer un camion à venir, parce que on va dire que de San Francisco au New Jersey, il y a quand même une sacrée trotte, il y a un beau voyage à faire.
C'est ça, et en plus à l'époque, ils débordent d'ambition parce que ils s'intéressent pas qu'à Metallica, ils veulent aussi faire venir Accept, qui est un groupe dans lequel ils croient beaucoup, ils vont lancer Manowar, d'autres groupes dont on va reparler bientôt, et c'est vrai que à ce moment-là, donc j'avais noté, mais il a en gros il a 60 000 $ qui gagne grâce à son magasin, mais pour toutes les ambitions qu'il a, il a pas assez d'argent. Donc John Zazula, il a déjà hypothéqué sa maison, il va faire une seconde hypothèque simplement pour pouvoir créer son label, donc qui va intituler Megaforce, et avec lequel il ambitionne de produire le premier album de Metallica. Et pour appâter Metallica, parce qu'en plus lui, il se dit Metallica, c'est le futur en fait, on va me les piquer en fait. Il y a forcément quelqu'un qui va venir leur proposer quelque chose, donc il faut que je les impressionne. Il est pas forcément au fait que Metallica lui-même de son côté galère un peu à trouver des plans qui lui plaisent vraiment. Et il leur propose 12 concerts sur la côte est. C'est le truc. Tu peux pas dire non, quoi. T'es jamais venu, on te propose 12 concerts. Il leur dit, vous allez l'ouvrir pour Venom, Twisted Sister, Vandenberg et The Rods. Donc, ils sont que des groupes qui ont plutôt le vent en poupe à l'époque. Et c'est vrai que John Zazula, il a l'ambition de créer un label, il a un magasin, on l'a dit, donc Rock'n'Roll Heaven, et il a aussi une boîte de management qu'il appelait Crazed Management, et avec lequel il fait tourner des groupes, donc étrangers, anglais notamment, canadiens aussi, Envol notamment. Et pour couronner tout ce qu'on a dit, donc effectivement, ils ont pas un rond, c'est carrément, donc tu le disais, c'est les parents, c'est leurs parents qui leur amènent de la bouffe sous vide. Ils leur préparent à manger, et ils leur amènent à manger dans leur frigo pour qu'ils puissent tenir. Et ils nourrissent également les groupes qui vont venir squatter chez eux de cette manière. Et en plus, pour couronner le tout, à l'époque, John Zazula, il a pris 6 mois de maison de transition pour tentative de fraude dans le monde de la bijouterie, parce qu'il y a eu un échange très louche de métaux précieux. Donc, il est déjà dans le métal, dans le business du métal, mais d'une manière
littéral.
Compliqué. Alors, il a plaidé coupable, même s'il a toujours dit qu'il était innocent, mais sur les conseils de son avocat, parce que sinon, il était sûr de perdre. Donc, il a plaidé coupable. Donc, du coup, il est dans une espèce de maison de transition. Donc, il est sous surveillance et il appelle avec des téléphones payants de sa maison de transition. Et en fait, il est en contact avec Lars de cette manière. C'est-à-dire que c'est... Et il le dit pas, évidemment. Donc, Lars l'apprendra des années plus tard.
C'est surtout qu'il... Il sort dans la rue à la seule cabine qu'il y a à côté du centre pseudo-pénitentiaire un peu libre où il est. Et du coup, les gars derrière lui font la queue pour pouvoir parler à leur compagne, à leur femme. Alors lui, il est en train de manager son label.
Et il appelle Lars et il lui vend sa tournée de 12 concerts et tout. Et évidemment, il essaie de faire en sorte que Lars comprenne pas que...
Accepter qu'il est...
Dans la panade dans laquelle il est, quoi.
C'est un peu chaud. Alors moi, pour ce qu'il a fait, j'ai lu, je le mets au cas où je dis de la merde, hein. J'ai lu qu'il s'est fait avoir... parce qu'il aurait posé des micros pour écouter des conversations, pour pouvoir faire des placements en bourse. Moi, c'est ça que j'ai
lu. Ah oui, il y a une histoire
métal.
Comme ça aussi. Oui, il y a une histoire comme ça, mais oui, c'est vrai.
Et j'ai trouvé ça vraiment complètement dingue. C'est qu'en fait, il s'est endetté, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il a fait des placements en bourse qui ont été jugés a priori illégaux, puisqu'il avait accès à des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je peux vraiment me tromper, mais je trouvais ça complètement dingue. Je voulais le préciser au cas où.
Ah, mais c'est... Non, mais c'est complètement possible. Ça me dit vraiment quelque chose, cette histoire. Mais après, il a été dans plusieurs trucs, mais je pense qu'on va faire le... On va aller creuser ça parce qu'on a pris de manière superficielle, parce qu'on est vraiment sur Metallica, mais... Ouais. Il a sorti lui-même d'ailleurs une autobiographie, il y a des choses sur lui, et je pense que si on creuse on peut faire un super épisode hors série sur ce mec, parce que
c'est clair, sur ce mec et cette nana,
parce que c'est assez génial aussi. Ils ont des histoires qui sont géniales dans leur façon
là,
de
c'est
gérer.
Vraiment des gens qui sont qui carburent à la passion dans le plus noble sens du terme, même si bon, il y a ces histoires de justice un peu bizarres, mais là c'est littéralement s'endetter pour faire venir des groupes parce qu'ils croient en eux, enfin c'est absolument incroyable, évidemment il y a une attente de retour financier derrière, parce que c'est comme trouver la pépite qui va t'en rapporter plein d'autres, quoi. Mais quand même, quoi. Enfin, le nombre de groupes qu'ils ont lancés, le nombre de groupes qu'ils ont fait tourner, c'est hallucinant, quoi.
Ah bah, c'est eux qui ont organisé les premiers concerts américains de groupes comme Envol ou Venom, par exemple. Ils croient énormément en Venom. Hein. Je pense que même Venom à l'époque, c'est vraiment en train de. c'est en train de prendre, on va dire, dans le milieu du métal. Ça impressionne pas mal. Et c'est des mecs qui vont venir donc squatter chez John et Marshall Zazula. Ils vont même lui cramer sa cuisine, d'ailleurs. Metallica aussi va en faire des belles, puisque Metallica arrive, hein, c'est pas un scoop. Là, ils sont en train de faire le trajet pour venir jusqu'à chez les Zazula.
Alors, petite précision, Mustaine déclare qu'il n'était pas au courant qu'ils allaient aller à New York. C'est dire aussi, je pense, l'époque dans laquelle il était, qu'il le trouve au seau du lit où il... Alors, selon Mustaine, hein, je le tiens à le dire, en gros, il se serait tapé l'actuelle copine à Kirk Hammett. Voilà, c'est à ce moment-là. Donc, ils le prennent au seau du lit. Il dit, les gars, faut que je prenne une douche avant de partir à New York quand même, parce que sinon, ça va être chaud. Voilà le contexte dans lequel, selon Mustaine, ils partent sur la route. Donc, nous allons préciser, parce que nous sommes passionnés par ça, nous avons fait d'immenses recherches là-dessus. Nous avons parlé des U-Haul pour parler de remorques qu'on met à l'arrière du camion. Là, c'est le modèle, j'allais dire le modèle grand luxe, mais c'est-à-dire que ils vont louer un véhicule, parce que faut savoir que dans les années 80, c'était assez simple de louer des véhicules et c'était pas si cher que ça. C'est pas du tout comme en France, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un côté service que nous, enfin, ça nous semble complètement inimaginable. S'il y a un problème avec la voiture, elle est tout de suite changée, etc. Il y a pas tant de pénalités que ça niveau pognon, mais bon, bref, ils louent un U-Haul qui est un pick-up, donc si vous voulez, c'est l'espèce de camionnette typiquement américaine avec 3 places à l'avant. Et là, c'est un pick-up avec où ils ont rajouté dessus une énorme structure qui permet de stocker des trucs, enfin qui fait que ça devient un camion. Voilà. Donc la structure est métallique et Metallica, ils partent du coup à 5 avec Mark Whittaker dans ce truc-là. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui doivent dormir à l'arrière, au milieu des cabinets Marshall, au milieu de la batterie. Donc je vais aussi le préciser tout de suite. Vous imaginez que Mustaine a déjà eu un accident et que le matériel à chaque fois a trinqué. Donc ça vous donne une idée déjà de l'état du matériel de pour tourner de Metallica, quoi. C'est-à-dire que je pense que la batterie de Lars, elle est complètement explosée. Même les 2 grosses caisses neuves, elles doivent être... Je doute qu'il avait des fly pour grosses caisses, etc. Les cabinets Marshall, ils doivent être déjà vintage. Enfin, ça, c'est déjà vous donner... puis même les têtes à lampe, enfin bon... Donc voilà, ils partent sur la route dans ces conditions-là. Évidemment, ils continuent à picoler comme des trous et ils font quand même de San Francisco au New Jersey. Donc, il y a énormément de régions à traverser et des régions souvent hostiles. Donc, a priori, ils tournent dans le camion pour qui conduit. Parce que là, Mustaine ne peut pas faire la route parce qu'il y en a quand même pour au moins 4-5 jours de ce gros voyage, quoi.
Oui, pour le coup, il se relaie et il y a justement, quand on arrive, donc là, on est toujours à la fin du mois de mars et le 28 mars, c'est un témoignage de Pam Barhorst, c'est une amie de Metallica de l'époque, auquel Cliff et James vont se confier. Donc ils sont sur le chemin sur la route de New York et ils vont lui dire, on a vraiment des soucis avec Dave Mustaine et on commence à se demander si ça va le faire avec lui, si on va pas être obligé de se séparer de lui. Et donc, entre l'Iowa et l'Illinois, là, c'est Dave qui conduit, alors qu'il a bu 15 à 20 bières. Il est donc déchiré au volant, pas de souci. Ils se font une petite pause déjeuner vers 7 heures du matin. Et là, classique, Dave et Mark Whittaker se battent. Mais assez violemment, parce qu'ils se prennent la tête, parce que Mark Whittaker lui fait des remarques, parce qu'il lui dit qu'il peut pas se tenir comme ça. Dave s'endort complètement déchiré à l'arrière du camion. Donc les 3 autres membres de Metallica et Mark Whittaker, ils sont devant. Donc comme tu l'as dit, il y a une cabine devant, ils sont tous devant pendant que l'autre il cuve derrière. Et à la sortie de Chicago, ils se tapent dans la main et ils se disent, on va virer Dave Mustaine, c'est juste plus possible. On peut pas continuer comme ça. Donc voilà, il est sur la banquette arrière en train de cuver. Et eux, ils sont déjà en train de prévoir l'après Dave Mustaine. Ils ont aussi des galères qui sont indépendantes de Dave Mustaine, puisqu'ils ont le U-Haul tombe régulièrement en panne, donc ça leur fait en plus perdre du temps pour arriver. Dans le Wyoming, bon, Dave manque de provoquer un accident encore, mais cette fois c'est parce qu'il est dans la neige. Donc le truc, voilà. C'est le truc dans
c'est
la neige. C'est
qu'il le dit, c'est que lui, il a jamais conduit dans la neige, littéralement. Voilà. C'est un gars de Californie, et donc du coup, il a cette sensation de glissement. Ils se font quand même un peu tamponner, hein, à ce passage-là. Ils arrivent à se mettre en travers de la route en étant face au trafic, la moitié du camion face au trafic d'en face, et enfin au milieu de la route apparemment, jusqu'à rebouger, et il y a une Jeep qui les tamponne quand même.
Bah, il y a même un moment, l'histoire, et a priori, ce serait pas un délire de Mustaine qui se la raconte, mais ce serait vraiment arrivé. C'est que, ils sont sortis du U-Haul pour essayer de décoincer les roues qui sont embourbées dans la neige. Enfin, a priori, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et il y a une voiture qui passe vraiment pas loin de les faucher. Donc, comme tu dis, après, il y a une Jeep qui les tamponne. Et au moment où la Jeep les tamponne, Dave, il pousse Mark Whittaker à la dernière seconde, genre comme dans les films. Paf, il lui sauve la vie. Parce qu'il va se faire, rentrer dedans par la Jeep. On est dans ce genre de délire là. Et en plus, en n'oubliant pas que, parce que il faut pas non plus, on n'est pas naïf, quoi. Il y a sûrement pas que Dave qui est à moitié beurré, hein. On connaît Lars Ulrich, on connaît James Hetfield à l'époque. Donc, ils doivent être dans un état qui est pas mal. Ils sont dans un état proche de l'Ohio, d'ailleurs. C'est assez compliqué. Ça aide pas à ressouder les liens avec Dave qui sont déjà abîmés par ce qui s'est passé depuis le début du trajet. Donc après, lui, il se plaint aussi qu'ils sont pas sympas avec lui. Il y a cette fameuse anecdote où il dit qu'il est à l'arrière du camion, donc probablement en train de cuver. Il y a de la rouille qui se détache du plafond du van, qui lui tombe dans l'œil, qui lui fait extrêmement mal. Il demande d'aller aux urgences et le groupe lui fait, on n'a pas le temps, on va te faire foutre. Tu vas pas aux urgences. Et il dit voilà. Ouais. Et il dit qu'à ce moment-là, il a senti qu'il avait perdu ses amis et qu'ils avaient plus de respect pour lui et qu'ils avaient déjà prévu.
Voilà. Et que lui, évidemment, il serait allé tout de suite à l'hôpital s'il y avait eu le moindre problème pour un de ses potes, mais eux ne le font pas pour lui.
Voilà, exactement.
Donc, il sent clairement l'animosité envers lui, sur tout le long de ce trajet. Donc long, extrêmement fatigant et périlleux quoi dans l'ensemble. Hein. C'est vrai que ça doit quand même bien calmer de manquer de mourir tous les deux jours quoi.
Bah oui, et sachant en plus qu'ils ont pris du coup la décision un petit peu avant qu'ils allaient se débarrasser de Dave, qu'a priori ils lui font sentir quand même que ça ne va pas, même si il y a plusieurs, selon les, au fil des années, il y a toujours eu plusieurs versions de la part de Dave, c'est-à-dire je l'ai toujours su et puis en même temps quelle surprise, enfin voilà, c'est
en
assez
même temps,
délicat.
J'ai pas de seconde chance, oui. Voilà. Tout ce double discours. Hein. Voilà.
Il avait déjà eu une seconde chance avec l'affaire des chiens, mais il a l'air de l'avoir oublié. Après toutes ces péripéties, ils arrivent chez John Zazula et donc la fameuse.
Si tu me permets, pendant tout le trajet, ils se font miroiter. D'énormes steaks, c'est-à-dire que apparemment il y aurait une promesse de bouffe selon Mustaine, hein, il y aurait une promesse de bouffe de ouf, genre des méga gros steaks avec en gros on est dans le petit chef le manga quoi, de la bouffe de malade, de la picole, enfin on leur a promis déjà beaucoup de confort en fait. Et c'est vrai que là, tu vas y venir, quand ils arrivent, c'est plutôt roots, quoi. C'est plutôt roots chez Zazula, comme on vous l'avait déjà annoncé, quoi.
Ouais, c'est extrêmement roots. Et en plus, dès qu'ils arrivent, comme ils savent se tenir, ils sont assez distingués, ils foncent direct sur les alcools et les de quoi picoler, et ils foutent le bordel dans la maison. Et déjà, Zazula comprend que c'est peut-être pas le meilleur plan d'accueillir les mecs chez lui. Donc, il va assez vite régler le problème en les envoyant... chez un de ses amis, mais on y revient. Mais surtout, le truc, c'est que dès qu'ils arrivent, ils se présentent, ils disent qui ils sont, et Lars chuchote très rapidement à Zazula, voilà, ça c'est Dave Mustaine, et après il lui chuchote, on va le virer, quoi. Il va sauter, quoi. Donc Zazula, il fait putain, le groupe arrive et il y a déjà plus de guitariste, quoi. Il manque déjà le guitariste soliste. Mark Whittaker prend très vite les devants et contacte Kirk Hammett, hein. Pas oublier qu'il est aussi manager d'Exodus. Donc ça, c'est dès le 1er avril, puisque la date est assez savoureuse. Il contacte Kirk Hammett le 1er avril pour remplacer et Kirk pense évidemment que c'est un poisson d'avril et raccroche. Mais avant de réaliser que c'est assez sérieux, mais avant d'en arriver au recrutement de Kirk Hammett, donc quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte que Zazula se rend compte qu'il récupère des soifards et qu'ils vont foutre le bordel dans sa maison, il se dit il va falloir qu'on gère autrement. Donc ils arrivent, ils vont chez Rockin' Rake, donc un des amis. Ils boivent énormément. James est déjà super malade parce que voilà, c'est comme ça qu'il se présente à la personne qui veut lancer sa carrière professionnelle. C'est d'ailleurs, c'est très célèbre, mais c'est vraiment à cette période qu'ils vont gagner leur surnom Alcoholica, puisqu'ils sont tout le temps bourrés de chez bourrés. Et ce qui se passe, c'est que il se passe quelques jours de flottement, en fait, si on suit bien un peu l'histoire. Zazula est un peu désemparé. Comme tu dis, il a promis plus que ce qu'il pouvait, donc il essaye de se démerder.
Il leur fait de la bouffe ultra bas de gamme, etc. Voilà. Donc les mecs en plus tirent la gueule, c'est quelle ambiance.
Pour tenir ses promesses.
Ils les amènent Rock'n'Roll Heaven. Apparemment, Mustaine dégueule non-stop, donc il se fait remarquer sur, je sais pas si vous imaginez, marcher au puf, tout le monde qui regarde ces gars qui buglent. Déjà qu'il avait des soucis parce qu'il fout du son à donf tout le temps. Là, il y a carrément un Gerbo Tromman qui arrive, qui en fout partout. Ça la fout vraiment mal, quoi. En gros, il a la teon partout, il les amène, quoi.
Et puis jusque dans son propre foyer, puisqu'il fout un bordel absolu dans sa maison. On l'a dit tout à l'heure, les Zazula, ils ont des enfants, enfin, ils ont une vie de famille.
Dont un nouveau-né.
D'ailleurs, c'est un truc qui en dit assez long aussi sur le le caractère de Cliff Burton, c'est Cliff Burton, il lit des histoires à la petite fille des Azula le soir quand elle arrive pas à s'endormir avec le boucan que les autres font en bas. Mais ce qui finalement va précipiter leur éviction de chez Azula, c'est parce qu'ils sont allés siffler une bouteille de champagne qui se gardait depuis son mariage pour une grande occasion. Alors on peut considérer que c'est une grande occasion.
Mais ouais, enfin, c'est une grande occasion quand tu bois la bouteille, pas quand les autres la boivent en cachette.
Non, mais bien sûr. Mais du coup, il dit cette fois c'en est trop. Je continue de bosser avec vous parce que je crois en vous à fond, mais je vous dégagez, ils vont aller vivre chez des gens à Rochester, à New York, dans un building qui va devenir célèbre, dans le Queens. C'est là où Anthrax a son local de répétition. Donc ils vont aller squatter
dans Music Factory.
Voilà, ils vont aller squatter dans ce building tout pourri où il y a pas d'eau chaude, pas de chauffage, où il y a une fameuse anecdote où les mecs d'Anthrax leur prêtent un grille-pain et de la mousse d'isolation pour se chauffer, parce que il y a vraiment littéralement rien. Ils leur filent même ils leur filent des sandwichs, des restes, des trucs. Enfin, c'est vraiment, ils arrivent, il y a plus rien et ça dure même un petit moment au point que il y a des rumeurs qui commencent à circuler même à San Francisco comme quoi Metallica s'est fait arnaquer à New York et qu'ils sont arrivés et qu'il y avait rien. Mais le fait est que ils se sont pas fait arnaquer, c'est simplement que Azula a promis beaucoup plus que ce qu'il pouvait. Ils décident de se serrer les coudes pour arriver à aller au bout de ce qui est leur rêve commun. Donc le groupe va autoriser Azula à vendre les démos de No Left to Laser à prix cassé, $4.99, ce qui va aider à financer la vie du groupe pendant que le groupe est là. Ils diffusent la démo H24 dans le magasin, vraiment pour pousser les gens à l'achat.
Ils diffusent aussi la démo parce qu'ils font les copies en même temps pour pouvoir les vendre. Et du coup, ils les font a priori en temps réel. Donc ça, j'ai vu, c'est assez rigolo. Mais oui, ce qui leur permet de financer un peu le groupe. Scotty, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les gars d'Anthrax qui font ce qu'ils peuvent, particulièrement Dan Liker et Scott Ian,
oui.
Qui, dès qu'ils peuvent, il dit à Mustaine, il dit « Bon, viens prendre une douche chez moi », ou bien il lui paye une part de pizza, des choses comme ça, des choses dont Mustaine s'en rappelle encore avec une extrême chaleur, c'est dire les conditions un peu extrêmes, parce que c'est vrai que on est à New York, il fait quand même très froid, il s'est pas chauffé, il n'y a pas de douche, il y a juste un lavabo avec de l'eau froide, comme tout confort moderne. Donc c'est vrai que les conditions sont quand même rudes, et surtout, bon, après, c'est vrai qu'ils sont tout le temps bourrés, malgré le peu d'argent qu'ils ont.
Malgré tous ces problèmes qui sont donc matériels et donc financiers, il y a une communauté là-bas dont on n'a pas encore parlé, mais on va détailler tout ça parce qu'il va se passer pas mal de choses avec eux, donc qui s'appelle Old Bridge Militia, qui est dirigé par Rockin' Ray et Metal Joe Chimienti. Rockin' Ray, donc, est le mec dont on a parlé tout à l'heure, qui sont... des fans dévoués de cette scène thrash metal naissante et qui sont tous immenses fans de Metallica, qui sont extrêmement fiers d'accueillir Metallica chez eux. Donc il y a une très forte cohésion de groupe de fans, de passionnés, au-delà juste des membres du groupe et de Azula. Il y a aussi plein de fans de metal dans le coin qui sont prêts à loger des groupes chez eux, parce que ce sont des gens qui vont accueillir d'autres groupes, hein. Même Slayer va passer beaucoup de temps là-bas aussi par la suite. Ce sont des gens qui vont coller des affiches, enfin c'est des militants en fait, voilà, c'est des militants de la cause métal dans New Jersey. Et ce qui est assez amusant, enfin qui est intéressant à mentionner, c'est que le 3 avril, donc on est vraiment juste après l'arrivée du groupe, ils vont aller jouer dans la maison de Metal Joe à Farmingdale, donc la maison qu'il a lui-même appelée Funhouse. On regardera, je crois que j'ai une photo de cette maison. Ils ont qu'une seule guitare sur place, parce que les mecs sont arrivés, ils sont vraiment arrivés à l'arrache, c'était pas prévu qu'ils jouent à la base. Donc ils ont une seule guitare, donc il y a que Dave qui joue de la guitare. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent dans une chambre du New Jersey, devant des fans, avinés, évidemment, tout comme eux. Ils jouent jusqu'à ce que Lars casse toutes ses baguettes et termine même les mains en sang. Ça part un petit peu en couille. Dave, il se bat avec un mec, forcément. Donc, un mec qui est surnommé Bulldozer Bob. Donc, c'est-à-dire un mec qui doit être assez costaud, parce qu'il est assez malin. Dave, il se bat avec des mecs plus forts que lui. Donc, le fameux Joe attrape Dave, il le jette par terre, et il lui dit, tu n'es plus en Californie, motherfucker! Et c'est ça qui est assez drôle. Après, ça se termine bien, hein, y a pas de souci. Mais ce qui est amusant, c'est que, techniquement, c'est le premier concert Metallica sur la côte Est. Avant même le premier concert officiel, c'est le premier concert. Et ce qui est marrant, c'est que plus tard, quand Kill Em All va sortir, vous pouvez regarder dans le livret, il y a une petite mention, c'est écrit, donc il remercie Metal Joe. Donc, on a dit, la maison lui appartient. Et entre parenthèses, c'est écrit, désolé pour le trou dans le mur. Donc, on imagine qu'ils ont pas mal défoncé la maison, et ce trou dans le mur, il a été fait ce fameux soir du 3 avril quand ils font le concert improvisé sauvage avec leurs amis.
Eh bien, mon cher Guillaume, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 6.
Ouais.
Donc, il nous reste beaucoup de choses à traiter, évidemment. On vous remercie, évidemment, d'avoir écouté cet épisode. On était peut-être un peu fouillis, mais on on essaie de faire ce qu'on peut. Il y a beaucoup d'anecdotes encore. Hein.
Après, le truc, c'est que sur cette partie-là, on est obligé d'être un petit peu fouillis parce que les biographies officielles, mine de rien, sur ces parties-là, elles sont assez succinctes. C'est-à-dire, elles ne rentrent pas dans les grands détails. Nous, on a l'ambition d'essayer de vous donner pas mal de détails et d'anecdotes. Mais le fait est que ces détails et ces anecdotes, on les trouvait essentiellement auprès de gens qui ont vécu les choses à l'époque, des témoignages de gens qui ont vécu les choses à l'époque. Et malheureusement, c'était il y a longtemps, il y a des contradictions, il y a des gens qui se souviennent plus exactement. Donc on essaie de recouper, de mettre ça tout bien ensemble pour que vous ayez à peu près les choses dans l'ordre. Voilà.
Eh bien, c'était super chouette. Vivement le prochain. On vous dit au revoir et on espère qu'on vous retrouvera vite pour ce 7e épisode et peut-être même un hors-série, un autre hors-série qu'on essaie de vous préparer. On essaie de faire plusieurs choses en même temps. En tout cas, je pense qu'on va, vous chier un max d'épisodes. Voilà, en tout cas, c'est l'objectif. Allez.
Je pense qu'il y en aura au moins 7. On va sûrement en faire 7 historiques avant de passer au premier album. Il y a des chances.
Je pense aussi. Allez, à plus tard.
À plus tard.